Donc il y a une bonne fluidité sur l'ensemble des volumes, que ce soit du set ou de la série détective, où finalement, même si par moment il y a beaucoup de choses à dire pour, au niveau de l'enquête, parce qu'il y a aussi il y a l'enquête, il y a le personnage, on voit qu'on essaie d'approfondir beaucoup de choses, et c'est ce qui donne cette BD riche, avec les dénouements qui se font vraiment sur les dernières pages. Et il y a une très bonne fluidité, une très bonne dynamique.
En plus, un élément qu'on n'a pas du tout évoqué, parce qu'on parle d'enquête, on parle de détective, c'est qu'il y a, comme dans les romans d'Agatha Christie notamment, une présentation de la société anglaise. Donc on retrouve les codes de la bourgeoisie, on retrouve dans ce Thomas, il y a une ambiance d'immeuble parisien des années 30.
J'ai trouvé Quai des Orfèvres en 1930, c'est chaud quand même. Vous avez des archives.
Et du coup, il y avait aussi tout ça à retranscrire, à essayer de coller au truc au niveau des vêtements. Bref, c'était intéressant. Il y avait plein de choses à mettre en avant. Et en même temps, on n'en revient, pas de place. C'était assez intéressant.
Si on avait juste la première page où effectivement il y a un texte, et c'est là où on met tout, on a tout mis dans la première page.
Au niveau graphique, effectivement, vous disiez que vous avez des styles assez proches à la base. Vous reprenez derrière quand même quelqu'un qui est Eric Canet, qui a un style très particulier, qui en plus n'est pas forcément celui, enfin, quand cette détective est sortie, c'est pas le dessinateur qu'on imaginait sur une série de détectives. Donc c'est vrai que c'est quand même aussi une charte graphique par rapport au fait qu'il ait défini les personnages qui devait être assez handicapante quand même.
Je crois qu'en fait, tous ceux qui ont pris la série là ont tout fait sauf du Bollard ou du Canet, du... Enfin, moi je viens de l'Heroic Fantasy, Julien c'est de la SF, Mara...
C'est du
victorien plus gothique, quoi. On n'est pas dans du classique. C'est une petite anecdote, mais la première chose que j'ai dit à Eric, c'est: vous êtes sûr que vous voulez que je fasse ça? Je ne sais pas dessiner de voiture. Eric m'a gentiment répondu: t'inquiète pas, il n'y en aura pas beaucoup. Et effectivement, la première page, c'est il sort de sa voiture. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il a pris des dessinateurs, malgré tout, qui n'avaient quasiment pas fait ce style-là. Donc, c'était de devoir faire une recherche. Mais c'est aussi peut-être ce qui fait qu'on a une série, finalement, de polar, donc qui est dans une petite case de la maison d'édition. Le polar, bon, il n'y en a pas tant que ça finalement, mais ils ont pris des dessinateurs, on est plus quand même tout public. Donc ça aide aussi à l'accessibilité et à s'adresser vraiment à un public beaucoup plus large pour quelque chose où effectivement il y a de la lecture, c'est des enquêtes policières, on n'a pas des scènes d'action de ouf dans tous les sens, il n'y a pas des boules de feu et des problèmes. Donc c'est. Mais moi je trouvais ça assez intelligent et. C'est aussi ce qui m'a plu dans la démarche.
Effectivement, c'est absolument vrai. Moi, pour l'anecdote, j'avais lu cette détective. Je ne connaissais pas Eric Canet, le travail en amont, etc. Et j'avais adoré le bouquin. C'était vraiment un gros coup de cœur, alors que voilà, c'est plutôt l'action, la SF, ce que j'aime bien, comme vous l'avez compris. Et du coup, je l'avais fermé et je me retrouve sur un salon assis à côté d'Eric Hanna, on ne se connaissait pas, et je découvre que c'était lui qui avait scénarisé en fait cette détective. Et on parle, et il m'explique qu'il cherchait des dessinateurs, etc. etc. Et sur le coup, il me dit t'aimerais pas faire un essai pour bosser sur la série. Ce que je me souvenais de l'album, en fait, c'était un truc, graphiquement, hein, je parle, un truc hyper pointu. J'avais retenu que l'époque, quoi, avec les costumes, avec l'architecture, avec les voitures et ce genre de choses. Et Eric me dit, assez justement, il me dit, mais attends, regarde mieux, c'est pas du réalisme, on est un peu dans la fan-fiction, comme on dit, et c'est quand même assez cartoon, un peu, enfin, on n'est pas, c'est un truc ultra réaliste. Et c'est vrai qu'à la deuxième lecture, en fait, on voit ce trait d'Eric Canet qui est quand même assez expressif aussi, enfin, qui apporte un truc très vivant, je trouve. Mais c'est vrai que rien que le thème, en fait, il y a une espèce de cliché qui s'installe. On se dit est-ce qu'on va être capable de pouvoir le dessiner. Moi, c'était un véritable challenge personnellement pour y aller, et je l'ai fait aussi pour ça, pour voir si vous pouvez sortir de mes univers, de ma zone de confort, et rentrer dans un truc complètement différent et y prendre du plaisir. C'était vraiment le cas au final. Quoi.
Margot, justement, toi, tu possèdes déjà.
Voilà, bah, alors en fait, moi, ma précédente série Clouz se passe en 1899, donc du coup, j'étais vraiment pas très éloignée au niveau des univers. Et en fait, c'était vraiment parfait parce que ma dernière série, quand je terminais mon dernier tome, mon tome 4, j'étais vraiment dans un état j'étais assez tétanisée en fait, parce que j'avais pas du tout de projet pour la suite. J'avais l'intention de continuer en tant qu'auteur complète parce que dans le fond, c'est quand même ce que je préfère. Mais les idées venaient pas, c'était vraiment compliqué. Et en fait, quand ils sont venus me chercher, c'était parfait parce qu'ils m'ont proposé détective et ça m'a permis de faire une super transition. Parce que je passais justement de auteur complète à juste faire du dessin, en fait, juste, voilà, j'avais pas à m'occuper du scénario, j'avais pas à m'occuper des couleurs. Donc ça a été assez reposant, en fait, franchement, comparé à une série précédente. Et du coup, ça m'a aussi permis de développer à côté d'autres projets, donc ça a permis de redémarrer, en fait, l'écriture de mon côté. Donc je suis vraiment, ça m'a vraiment apporté à plein de niveaux, en fait, de travailler sur cette série. Et du coup, ouais, moi, c'était vraiment chouette de pouvoir continuer, voilà, dans cet univers-là et d'être un peu dans ma zone de confort, en fait. Sauf que, contrairement à Clouz, il y avait beaucoup de personnages masculins, alors que dans Clouz, c'est vraiment centré sur une femme. Donc ça m'a aussi permis de m'amuser avec des personnages masculins, de partir dans un dessin un peu plus cartoon aussi, et de vraiment faire des tronches et tout. Et donc c'était à la fois ma zone de confort et pas tant ma zone de confort que ça au niveau des personnages. Donc ouais, c'était assez idéal, en fait. Voilà.
Donc c'est un projet complexe de manière éditoriale, créatif. Comment ça se fait pour faire autant d'albums sur autant d'artistes, enfin autant d'auteurs différents? Comment vous faites?
Ah, comment on fait? Bah, on fait que ça. Ouais. On fait que ça pendant 3 ans et demi, 4 ans. J'ai quasiment écrit que des détectives pendant cette période. Et donc de manière classique avec le travail, ce que je vous disais tout à l'heure, le travail de bras. Puis ensuite de proposer, et puis ensuite il fallait qu'il y ait un espèce de turnaround naturel, que les collaborations s'enchaînent, de manière à avoir 2 parutions par an. Donc une fois que j'ai envoyé le premier, il fallait très vite servir le deuxième et le troisième, pour que pendant que Sylvain Guinbeau soit déjà impliqué, on soit déjà en charge du dessinateur du deuxième. Pendant que Sylvain était en train de terminer le premier, Nicolas était déjà sur les boards. Et Cyril était déjà engagé, et ainsi de suite. En fait, il fallait toujours avoir un temps d'avance pour savoir quel était le dessinateur suivant. Et donc, à moi de proposer les scénarios 13 ans d'avance. C'est pour ça que j'ai fait quasiment que ça.
Et je pense pas me tromper en disant que finalement, t'as pas écrit pour nous, t'as écrit.
Non, pas. Jamais.
Le processus d'écriture a été fait par rapport à ce que Eric avait en tête, je pense, et ensuite, il y a eu des choix. De dessinateurs par rapport à ce canon graphique dont on parlait tout à l'heure, et c'était à nous un peu de glisser un petit peu dans le scénario.
D'où l'importance, comme disais tout à l'heure, du casting, en fait, de connaître leur style, d'imaginer ce qu'ils pourraient donner sur Détective, comment ça va faire. Parce que c'est pas, moi c'est un peu réducteur, mais c'est pas le cartoon qu'ils ont en commun. Une espèce de patte détective qui est difficilement définissable, le trait qu'ils ont en commun. Tu voulais?
J'allais dire, en plus, enfin, souvent le cartoon, on voit ça comme pour toucher un large public, pas choquer les enfants. Mais là, vu que c'est des histoires très basées sur les personnages, ça donnait de l'expressivité.
Exactement.
Et du coup, entre la grande quantité de dialogues et le fait d'avoir des personnages très expressifs, on était vraiment dans on pouvait se rapprocher justement du roman.
Et c'était important aussi que le monde de détective ne soit pas le monde réel. C'est pour ça que, comme le disait Julien tout à l'heure, dès Camette, en fait, je leur ai demandé de s'approprier ce monde. En fait, s'ils travaillaient sur des documents d'époque, je sais pas, par exemple, la Ford 1920, j'ai du mal à dessiner. Tu prends une référence de Ford 1920 et peu importe une autre marque, et t'en fais toi-même ton propre véhicule, ça marchera dans le détective parce que c'est pas la réalité. Les quartiers de Londres n'existent pas. Les villages n'existent pas, les villes n'existent pas, les personnages n'existent pas. C'est du second degré totalement assumé. Et
dans le cadre, tout existe.
Oui, le quai des orphelins existe.
J'ai pris les plans
Big Ben existe dans ce détective. Oui. Mais Voilà, à part des grandes figures comme ça où on pouvait se reconnaître, tout le reste est totalement inventé. C'était important de l'assumer. Et pareil, le volume de texte, j'y reviens parce qu'il... Mais c'est pas un hommage aux policiers, c'est un hommage aux policiers en littérature. Donc je pouvais pas faire ça. Et de l'autre côté, j'aurais pas fait à l'envers. Si on avait pu avoir des albums de 120 pages, j'aurais adoré avoir beaucoup, beaucoup plus de place pour les dessins. Et c'est pour ça que fréquemment, je colle au moins une page ou une double page par album d'illustration pure pour que ça respire. Mais ils le savaient.
Mais ceci étant, pour revenir malgré tout au décor, pour ma part, je sais pas les autres, mais pour ma part, j'ai pris quand même le parti pris, mais ça, c'était mon problème. Quand tu dis que ça n'existe pas, justement, j'ai fait un travail sur être, moi, pas le plus réaliste dans le traitement graphique, mais le plus réaliste dans les éléments pour que les gens soient dans l'univers qu'on se fait vraiment de Paris avec Maigret. Donc je me suis fallé du Maigret, ce qui me va plus, voilà. J'ai des photos, tout ça, et j'ai vraiment pris des plans de Paris, j'ai pris... par exemple, le restaurant existe vraiment. Enfin, c'était un restaurant de 1930, c'était pas celui-ci, mais c'était un restaurant de 1930. J'ai repris les façades, j'ai repris des panneaux d'écriture. Il y avait la fleuriste à un moment donné qui m'a posé un problème puisque c'était une boutique. Or, à cette époque-là, il n'y avait pas de boutique, c'était des charrettes de fleuristes. Donc, il fallait. J'ai mixé des trucs, mais j'ai essayé d'être le plus proche des années 30 parisiennes, à des détails près. Mais en ayant un style, de toute façon, je ne sais pas faire autrement, donc Toons, même si quand on dit ça, ça fait peur aux adultes parce qu'ils ont l'impression qu'on infantilise la bande dessinée, ce qui n'est absolument pas vrai, mais qui donne, oui, toute l'expressivité au personnage.
En fait, Thomas parlait d'éléments en fait, qui font la blague et qui donnent l'impression que ça existe. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin que le bâtiment soit existant. Mais il suffit de choisir les bonnes poignées de porte ou de prendre une cuisinière d'époque.
C'est une question de jouer des codes avec des codes, en fait.
Voilà,
des codes
et des clichés
qu'on connaît tous, justement, qui apparaissent qui sont dans la pop culture commune à tout le monde. La culture commune à tout le monde, on sait tous que voilà, victorien égale, début du XXe siècle, c'est chapeau de forme. Années 20-30, c'est les flappers, c'est l'art déco, voilà, tout ce genre de choses.
Ouais, mais quand j'ai dû dessiner la cuisine, parce qu'il y a un interrogatoire, c'est là où le scénariste ne se pose aucune question.
T'es de savoir. Tu de dessiner une cuisine, monsieur, je te dis.
Savoir si en 1930, on a l'eau. Et non, il n'y avait pas l'eau dans tous les appartements, il n'y avait pas d'électricité dans tous les appartements, mais pourtant, il y a une lumière qui doit l'éclairer. Enfin, il y avait. Et c'est vrai, c'est con, mais c'est des petites questions. Où à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire. Et c'était super compliqué. Après, le lecteur, on n'a rien à faire, on est entièrement d'accord. Mais c'est tous ces petits éléments qui font, malgré tout, qu'on s'immerge dans un univers et qu'on s'y perd. Et le but, c'est de se perdre, surtout dans des enquêtes. Il faut se perdre dans ce qu'on est en train de lire et regarder.
Et c'est d'autant plus vrai que finalement, comme l'a dit Eric, le ton, c'est du second degré. Encore une fois, dans la fanfiction, si on avait traité ça sous un aspect historique, ça aurait été vraiment un problème parce qu'il y a des lecteurs qui vont être vraiment dessus, qui vont dire « Ah non, mais ça, c'est pas possible, etc. »
J'en ai eu.
En tout cas, merci pour vos réponses. Merci beaucoup, merci d'être venu. Et puis, je vous sollicite à découvrir la série si vous ne la connaissez pas. Oui.